It's just after 9 o'clock on Monday evening, which means it's time for Bouche à Oreille, Radio Verulam's programme for francophones and francophiles. The next hour will be exclusively in French, so brush up your language skills and get ready for a taste of France. With Aline Bavister, Geraldine Zielinski and Elise Lines.
Bonjour et bienvenue sur Bouche à Oreille, votre rendez-vous hebdomadaire tout en français.
Welcome to Bouche à Oreille on Radio Verulam, the weekly show all in French every Monday from 9 to 10 p.m.
Et voilà, et ce soir nous sommes dans une émission de type assiette anglaise, c'est-à-dire que nous avons nos invités ou nos reporters habituels qui se joignent à nous et qui choisissent leur sujet pour parler de leur spécialité. J'ai nommé...
Eh bien, Martin, qu'on retrouvera tout d'abord, et Martin ce soir nous parlera de l'automne. Ensuite, nous retrouvons Pierre qui nous fait le tour des sorties mensuelles de ses livres préférés. Et nous terminerons avec Mélanie qui nous fera le tour des sorties ciné, DVD et des expositions à ne pas rater dans la métropole. Voilà.
Voilà, donc on retrouve tout de suite Martin Clavier. Bonsoir Martin, est-ce que vous êtes en ligne avec nous ?
Oui, bonsoir. Ah,
bonsoir et bienvenue. Donc oui. Vous avez un sujet de saison, il me semble, puisque nous allons parler de l'automne.
De l'automne, alors j'ai cherché un petit peu, j'ai tout ce qui pouvait parler de ça. Alors d'abord, je me suis aperçu que l'automne, ça vient d'un verbe, du verbe ogeo en latin, qui veut dire augmenter. Et c'est la même racine que le mot hauteur. J'ai été surpris, c'est d'ailleurs celui qui fait croître, c'est la saison qui est enrichie, qui est augmentée. Alors le mot est parfois masculin, parfois féminin, et apparemment les grammairiens ont essayé d'établir une règle, mais ils ont abandonné. Donc on trouve le mot avec les deux genres, un automne ou une automne.
Et ça c'est le cas dans le dictionnaire ?
C'est dans le dictionnaire, j'ai trouvé
féminin
ça.
Féminin ou masculin, ouais. Ça doit être un des rares...
Je savais pas.
Un des rares mots hermaphrodites.
Oui, on a essayé de trouver une règle, mais on n'a pas réussi à trouver. Bon. Et alors, en langage populaire, on appelait ça l'après-août.
Ah, d'accord.
Ou alors la saison du gain, G-A-I-N, et le regain, c'est la période où l'herbe repousse. Alors ben voilà, on y est depuis un mois et quand on cherche ce qui a été écrit sur l'automne, c'est d'abord les feuilles qui tombent, avec les plus observateurs qui notent que c'est parfois une bonne saison pour certaines feuilles d'impôt.
Oui, c'est ça, les feuilles qui tombent.
Qui tombent aussi à cette période-là. Alors c'est synonyme de tristesse, hein. J'ai cherché un petit peu, on se souvient tous de Colchic dans les prés. La chanson, vous devez vous en souvenir.
Oui, on va pas la chanter, mais...
On va pas la chanter. En ronde monotone, sans vent tourbillonnant, c'est vraiment l'ambiance. Hein. C'est une dame qui s'appelait Francine Cacampo qui a écrit ça. Elle était chef scout, puis elle a écrit plein de chansons, comme ça.
Alors, vous savez à quelle époque ? Vous savez de quand elle
est morte ? Ah oui, Francine Cacampo, elle doit être morte il n'y a pas très, très, très longtemps. Hein. C'est vraiment au XXe siècle qu'elle a écrit ça. Elle avait écrit aussi « J'ai lié ma botte avec un brin d'osier ». Elle a écrit des centaines de chansons qui étaient chantées par les guides et les scouts.
D'accord.
Et puis j'ai une dame d'ailleurs qui, une fois qu'elle était à la retraite, je crois, elle devait avoir 75 ans, elle s'est fait agresser par un type qui a voulu la cambrioler, qui lui a crevé un œil d'un coup de bouteille, c'était horrible. Et elle a écrit un livre qui s'appelle L'agresseur, où cette femme très pieuse essayait de voir comment on pouvait pardonner à un sale type. Mmh. Hein, c'est Francine Cacampo, quand j'avais lu ça, ça m'avait étonné. Donc, mais là, on reste en automne, hein. Alors, Alain Raymond, qui est un journaliste qu'on connaît bien, là, il dit « Je connais rien de plus sinistre que la chute des feuilles en automne. » Ou Christian Bobin, « Les nouvelles sont comme les feuilles d'automne, le vent qui les porte les malmène. » Mais il y a des gens quand même qui sont un petit peu plus positifs. Hein. Jacques Chessex, un auteur, Une demeure d'or et de pluie, voilà l'automne.
Ah, c'est joli.
Ou plus poétique, Pierre Véron, un écrivain qui est mort en 1900, l'automne, c'est le post-scriptum du soleil.
Ah, aussi, c'est beau. Oui, c'est joli.
C'est beau, ça. Alors, comme on le voit, le rythme des saisons, c'est la vie quotidienne. La saison où il y a du soleil, c'est le meilleur moment. Et puis, l'automne, eh ben, ça annonce l'hiver, c'est la saison la plus dure à passer. Hein, une écrivaine qui a 83 ans aujourd'hui écrivait, Jeannine Boissard, l'automne est cousu de moments de grâce qui ne durent pas.
Oh, c'est joli. Alors, oui. Bon anniversaire à Jeannine.
Et puis, Toulouse-Lautrec aussi, il avait dit, lui, c'est le printemps de l'hiver, l'automne.
Oui, d'accord.
Alors, bien sûr, on se souvient de Verlaine, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone.
Je vois Élise qui la connaît par cœur, parce que
oui, j'avais appris en CE2.
On l'a appris à l'école, ça.
Oui, en CE2. En CE2, c'est tôt quand même, hein.
Et Georges Sand, il voit une musique comme Verlaine. On a trouvé ça dans François le Champy. L'automne est un andante mélancolique et gracieux qui prépare admirablement le solennel adagio de l'hiver. Hein, comme quoi tout le monde y voit de la musique.
Ouais.
Avec un petit effort. Alors, l'arrivée de l'automne, c'est toujours pénible. Hein, j'ai trouvé un poète espagnol qui dit « Les feuilles sèches préparent la tisane de l'automne
». Je ne vais pas boire de cette tisane-là, moi, merci bien.
Oui, et Francis Ponge, le poète, dit « Tout l'automne à la fin, ce n'est qu'une tisane froide
oh. ».
Alors, après l'agitation de l'été, j'ai trouvé un Félix-Antoine Sarrard, un évêque québécois, qui pense que l'automne est une saison sage et de bons conseils.
Ah, et quand même quelque chose de positif.
Ah, il y en a qui sont plus positifs, mais j'ai trouvé aussi Céline Blondeau, triste est l'automne pour celui qui ne sait pas l'égayer. Alors Céline Blondeau, on va quand même dire qui c'est la dame qui est morte maintenant, il y a quelques années, et qui avait écrit la chanson « Mon ami la rose » pour Françoise Hardy.
Françoise Hardy. Oui.
Alors... l'automne, ça sert souvent à évoquer l'annonce de l'achèvement de quelque chose. Hein, on trouve dans un livre de Marc Lévy, l'amour a aussi son automne pour celui qui a oublié le goût de l'autre. Alors, une métaphore fréquente parle de l'automne de la vie, et principalement de l'automne des femmes. Hein, je ne sais pas pourquoi.
C'est toujours
l'automne
nous,
serait
on
la
s'en
dernière
prend
belle période de la vie. Hein, Agrippa d'Aubigny, ça vous la connaissez, une rose d'automne n'est plus qu'une autre exquise. Hein. Et il y a même un auteur contemporain, Françoise Dumoulin, qui dit « Les femmes ont aussi leur saison, l'été ne dure pas toujours. Après, il y a les splendeurs de l'automne, mais qui prend le temps de regarder et d'aimer l'automne ?»
Exactement.
Hein,
Entendez ça, messieurs.
Oui. Ah ben, l'automne, c'est la belle saison, oui. Et même Madame de Sévigné disait « Je me représente cet automne-là délicieuse. Et puis je regarde la fin avec horreur, qui me fait essuyer de grosses gouttes. » Et il y a même un auteur canadien qui est mort en 1979, Harry Bernard, qui a écrit « L'automne a beau se parer comme une vieille coquette, s'ornée de feuillage pourpre ou mordoré, il n'est que l'heure et trompe-l'œil. » Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé encore ? L'automne est délicieuse parce que le printemps doit venir encore pour nous. C'est Sénancour. Là, on est au 18e, début 19e. Et puis, c'est la nostalgie de la vie passée. Hein, à l'automne des saisons, ce sont les feuilles qui meurent. À l'automne de la vie, ce sont nos souvenirs. C'est une Canadienne qui a écrit ça, Flore de Dune. Ou, plus ancien, alors là, j'ai trouvé ça à un avocat au Mans en 1680, Claude Blondeau, qui écrivait « Je suis à l'automne de la vie, mais qu'importe puisque l'hiver est mon ami ». Et puis le poète libanais Khalil Gibran y voit une chance. En automne, je récoltais mes peines et les enterrais dans mon jardin. Lorsqu'avril refleurit, mon jardin fut jonché de fleurs exceptionnel.
Voilà. Si on survit à l'hiver, en gros, il y a de l'espoir.
Oui. Et puis, j'ai même trouvé une citation de Shakespeare. L'automne, c'est le signal de la fin. J'ai vécu assez longtemps et le chemin de ma vie se perd dans les feuilles jaunies et séchées. Pour terminer, je vais terminer sur quelque chose de plus simple parce que quand je pense à l'automne, moi j'aime bien repenser aux paroles parfois un peu niaises des chansons populaires des années 60. Je pense que vous vous souvenez toutes de ça, Alain Barrière, qui chantait « Aujourd'hui c'est l'automne, qu'il est loin le printemps ». C'était pas la littérature, mais c'était quand même plus simple à cette époque-là.
C'était très simple.
Aujourd'hui c'est l'automne, qu'il est loin le printemps, et ben voilà.
Voilà. Vous disiez, Céline Blondeau, tout à l'heure vous la citiez, que l'automne il faut savoir l'égayer, et je trouve que en particulier en Angleterre, ils font ça très bien, parce que c'est une saison en fait qui est très agréable et assez festive. On commence par le Harvest Festival, qui me fait penser, parce que vous dites que l'automne c'est plutôt augmenté, et que là tout ce qu'on cite c'est négatif, mais dans l'automne ici, ou le début de l'automne en tout cas, il y a toute cette notion de c'est la récolte, et c'est la fête de la récolte, et c'est l'espèce de Thanksgiving à l'anglaise. On commence par ça, suivi de Halloween, qui est très fêté ici, même si c'est pas une fête d'origine anglaise, on va dire. Suivi de 5 novembre, qui est le jour du feu d'artifice des Anglais. Alors, pour différentes raisons qu'on va pas expliquer, mais c'est leur soir de feu d'artifice. Donc, j'ai pensé à ça quand vous avez cité Céline Blondeau, qu'ils ont su l'égayer cette saison. Elle est assez agréable, malgré, on va dire, les températures et l'ambiance.
Oui, c'est amusant. C'est plus près du texte en Angleterre.
Voilà, exactement. Donc petit message pour les Français. Il suffit juste de savoir l'égayer la saison d'automne. Et grâce à vous, on a des idées, Martin. Merci beaucoup.
Bien, allez.
Et puis rendez-vous le mois prochain.
Rendez-vous le mois prochain.
Avec un autre sujet. Au revoir.
Oui, au revoir.
Alors, nous venons de quitter Martin Clavier qui avait choisi pour ses expressions la saison de l'automne. Pour passer à un tout autre sujet, Élise, hier, le 13 novembre, c'est une date maintenant un peu funeste pour les Français partout dans le monde, en particulier pour les Parisiens, donc aussi pour ceux qui habitent à Paris qui sont pas forcément Français, parce que c'était l'anniversaire des attentats au Bataclan, mais aussi dans d'autres lieux à Paris.
À Paris, voilà.
Voilà, qui ont causé 130 morts. Il y a eu des cérémonies qui ont été faites hier dans le plus grand recueillement et aussi également une minute de silence.
Et Sting a rouvert le Bataclan avec un concert ce week-end. Voilà. C'était la rouverture de la salle.
C'est lui qui a été choisi pour réouvrir la salle. Puis bonsoir, vous êtes en effet sur Bouche à Oreille. Nous sommes là tous les lundis soirs de 9h à 10h dans une émission de type assiette anglaise, c'est-à-dire que nous avons différents invités qui nous ont rejoints. Nous avons écouté Martin Clavier avec ses expressions françaises et puis nous avons écouté la chanson de Calogero Un jour au mauvais endroit que nous avions dédiée spécialement à tous les gens touchés par les attentats qui ont eu lieu à Paris il y a un an et un jour maintenant puisque l'anniversaire funeste était hier. Nous sommes maintenant en ligne avec Pierre. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Géraldine.
Vous êtes bien là.
Bonsoir.
Alors on va parler d'autre chose avec Pierre puisque vous nous faites toujours le plaisir de nous sélectionner des romans ou des livres, on va dire, parce qu'il n'y a pas que des romans. Mais ce soir, vous avez un autre sujet pour démarrer. On ne parle pas de livres, on parle de bibliothèque. C'est ça, Pierre?
Oui.
Alors on est au nid des lettres françaises, là, éclairer notre lanterne.
Eh bien, écoutez, voilà. Vous savez, la mémoire des lettres françaises, c'est la Bibliothèque nationale de France, que les Français nomment plus couramment la BNF.
Voilà.
Alors, elle a pris ses quartiers du côté de la rue de Richelieu, à deux pas de la Comédie Française. Vous voyez le Louvre, il y a Comédie Française, un peu plus loin, vous avez l'Opéra, etc.
Pierre-Rue de Richelieu.
Alors, cette très, très vieille institution, cette vénérable institution, eh bien, finalement, a ouvert, il n'y a pas si longtemps, il y a moins de deux semaines, une souscription publique pour renouveler la salle ovale de son site Richelieu, et il propose ni plus ni moins, tenez-vous bien, de susciter, de stimuler le côté lumineux qui dort en chaque lecteur, en proposant d'adopter une lampe.
Ah, quelle bonne idée.
Ou une colonne.
Alors, d'accord.
C'est presque même que Ah ouais, enfin, faut dire quand même que avoir son nom apposé sur une lampe en opaline,
voilà,
ou sur une table en chêne cirée avec un joli sous-main en linoléum noir armé de toiles de jute, ou bien marqué par une colonne en fonte, ça en jette.
Ça en jette, ah,
fait, comme disent certains jeunes Français.
C'est classe.
Vous savez, moi j'ai un vocabulaire un petit peu plus bridé.
Ah bon?
Je suis à l'automne de la jeunesse.
Alors, oh là là, beau lien. Alors, qu'est-ce que vous diriez, vous?
Je dirais quand même que inscrire son patronyme, c'est quand même d'abord inscrire son patronyme dans le patrimoine national.
Ah.
C'est quand même pas rien.
Et moi, je trouve que c'est une superbe idée de cadeau de Noël, par exemple. Imaginez, vous n'avez pas d'idée, vous pouvez offrir ça. Est-ce qu'on a une idée de la somme, d'abord, qu'on espère lever et de ce que ça va nous coûter si on veut en faire un cadeau de Noël, une belle lampe?
Oh là 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 là,
oh là, là.
Savez, moi j'ai toujours été un peu fâché avec le calcul. Mais ça fait quand même qu'il y a 42 lampes qui sont à adopter pour environ 1000 euros chacune.
Ah quand même, mais pas de donner là.
Il y a 100 tables avec le numéro de place au choix pour, oui, 2000 euros.
D'accord.
Ou alors 32 colonnes à 6000 euros pièce.
Mais bon, la colonne est trop chère pour moi.
Rassurez-vous, il est également possible de verser des dons d'un montant libre. À partir de 5 euros, la souscription est ouverte. Hein. Et ça, c'est jusqu'au 31 décembre.
Et est-ce qu'on aura notre nom quelque part dans la bibliothèque si on donne 5 euros?
Eh bien oui, bien sûr. Alors, vraiment, pour motiver les amateurs de lampes en opaline, je voudrais leur dire quand même que le mécénat, même le petit, le mécénat critique, permet de bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 66% de la valeur du don, dans la limite de 20% du revenu imposable. Pour un particulier, bon, évidemment, si vous êtes à 5 euros, vous voyez, 70
bon, ça ne va pas faire grand-chose, mais...
Ça va aller bien.
Mais ça,
enfin,
c'est...
Bon, hein, tout, c'est comme vous savez, il y a un proverbe français qui dit que c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières.
Tout à fait. Et puis ça, c'est bien typique des Français. Défalquer de vos impôts tout ce que vous donnez. C'est une superbe initiative. C'est exactement ce qu'ils ont fait chez nous à Saint-Aubens pour le cinéma local qui a été complètement rénové, qui a été fermé pendant des années et qui a réouvert ses portes grâce à ce genre de subscription. Donc, eh ben, écoutez, c'est une très très bonne nouvelle. Et moi, je le redis, je trouve que c'est un cadeau de Noël génial. Même si forcément, si vous n'avez pas forcément 6000 livres pour une colonne, je sais pas, mettez-vous à plusieurs.
Non, mais avec 5 euros.
5 euros, ça peut le faire. Alors, bon, alors donc on parle de la bibliothèque, mais vous êtes quand même là pour nous parler de livres. Donc, une pluie de lauréats s'est abattue avec la proclamation des divers prix littéraires récemment. Alors, comme on peut pas tous les nommer, si vous n'en aviez que deux à retenir, lesquels seraient-ils, Pierre?
Eh bien, curieusement, ils ont été remarqués par le jury du Femina.
Tous les deux.
D'abord, j'ai Le Garçon de Marcus Mal qui est paru aux éditions Zulma. Et puis ensuite, j'ai eu le prix Femina étranger qui était très très beau à découvrir, qui s'appelle Les Vies de Papier de Rabi Alameddine, à propos duquel j'écrivais le 24 septembre dernier, donc comme très très largement avant la proclamation.
Avant qu'il soit consacré.
J'avais écrit lire un livre à l'érudition éprouvée, à la senteur d'un café à la cardamome, pleurant le labnet, en compagnie des fantômes de Schopenhauer, Spinoza, Pessoa et tant d'autres, sans oser prendre le temps de manger, de boire, avant d'avoir pris connaissance de la dernière ligne, de la dernière page, c'est ce qui vient de m'arriver avec Les Vies de Papier. Alors, c'est un écrivain libanais. Et franchement, c'était un superbe livre que je recommande vraiment aux uns et aux autres.
Mais il y a combien de pages? Parce qu'on risque de tomber en hypoglycémie, là, Pierre. Il y a combien de pages?
Ah, oui, mais enfin, bon, c'est tellement... Hein,
c'est tellement prenant qu'on s'en rendrait même pas compte. D'accord,
oui,
donc un beau cadeau de Noël. Ça,
un
c'est...
beau cadeau de Noël.
Voilà, Étranger, il s'appelle. Étranger.
Oui, alors, c'est-à-dire qu'il s'appelle Les Vies de Papier, mais
Les
Vies de Papier.
Du
prix Femina
étranger. Oui, je lis mal mon papier.
Femina, vous avez le roman, évidemment, vous avez le roman français, puis vous avez le roman étranger.
Et d'accord, là, Les Vies de Papier. Voilà. Alors, voilà. Par contre, on ne récompense pas que des romans. Il y a aussi des essais qui sont récompensés. Et alors, celui qui a été retenu par le prix Femina cette année, il a créé des polémiques. Alors ça nous intéresse parce que nous, on aime bien les histoires. Il racontait la vie de Charlotte Delbault, femme de lettres française et poétesse. Alors, racontez-nous la polémique. Tempête d'eau ou ouragan mérité? Tempête d'eau, tempête, je veux dire, dans un verre d'eau.
Oui, eh bien écoutez, moi je vois bien que vous faites allusion d'un cas solide qui s'appelle Charlotte Delbault, Une vie retrouvée. Hein. L'auteur en question, c'est Ghislaine Dunant. C'était sorti chez Grasset. Eh bien oui, effectivement, cet auteur est accusé, tenez-vous bien, de malhonnêteté intellectuelle pour l'absence de bibliographie à son livre. Alors, je dois quand même dire que la polémique est née d'un coup de sang de Violaine Gély, qui est elle-même co-auteur d'un autre livre retraçant la vie de Charlotte Delbault.
Je sens la jalousie pointée.
Alors, évidemment, c'est une, cette dame est universitaire, elle a pas mal cherché, voilà, et elle se voudrait presque la gardienne du temple. Hein,
voilà, exactement.
Voilà. Alors, l'emballement médiatique a fait le reste. Hein, vous savez, quand il y a une polémique, tout le monde court derrière.
Il n'y a pas de quoi.
Mais je dois quand même dire que Gély a la dent dure. Elle a quand même sorti que Ghislaine Dunant oublie l'une des plus belles leçons de l'œuvre de son modèle. Pour Charlotte Delbault, qui écrivait si rarement au jeu, c'est le nous, le collectif qui prévalait.
Bon.
C'est comme très très méchant comme...
Alors vous en pensez quoi, vous?
Ben, écoutez, moi je me range un petit peu du côté de la présidente Mona Ozouf. Hein, elle disait ceci, Mona Ozouf. Elle disait que ce livre n'est pas un livre qui nécessite une bibliographie, car il n'entre pas dans le cadre universitaire comme une thèse, par exemple. Il s'agit plutôt d'un portrait. Et elle ajoutait même qu'aucun livre n'est obligé de donner ses références. Et moi, je suis assez d'accord avec ça. Si, évidemment, on est dans le cadre d'une thèse ou dans le monde universitaire, évidemment, il est bon de mettre de la bibliographie. Mais ce n'est pas nécessaire.
Non, d'accord.
Surtout que là, dans l'esprit de l'auteur, c'était pour le grand public. C'est pas, et la collection dans laquelle c'est sorti, c'est pas des livres spécialisés en histoire et en autobiographie.
Mais c'est présenté comme une biographie ou non? C'est présenté comme un essai sur Charlotte.
Oui, mais c'est quand même extrêmement romancé, puisque
oui.
Rien que le titre, elle nous avertit. Hein, elle nous dit pas c'est la vie de Charlotte Delbault. Elle dit Charlotte Delbault, une vie retrouvée. Et l'autre, donc, sa
rivale, on va dire.
C'est arrival de dire qu'elle ne voit pas pourquoi une vie retrouvée, puisqu'on ne l'a jamais perdue.
Bon, alors, si vous voulez vous faire votre opinion vous-même, le livre s'appelle Charlotte Delbault, Une vie retrouvée, écrit par Ghislaine Dunant, publié chez Grasset et donc récompensé par le prix Fémina pour les essais. Alors, tout à l'heure, vous nous avez mis l'eau à la bouche en éveillant nos papilles et nos narines en nous parlant de la cardamone. Et donc, on se doute que vous allez nous emmener jusqu'au bord de la Méditerranée et plus particulièrement à Beyrouth dans vos autres choix.
Eh bien oui, parce que vous savez, en un mois, l'actualité, elle vieillit à la vitesse grand V. Mais figurez-vous que c'est seulement hier soir qu'a fermé le salon du livre francophone de Beyrouth.
Bon. Donc c'est des nouvelles fraîches.
Là, on est quand même dans le... Voilà. Alors moi, je voudrais quand même, puisque nous sommes à parler des lettres francophones, c'est quand même le salon du livre francophone, je voudrais qu'on reparle ou remettre un petit peu au goût du jour certains auteurs libanais qui ont marqué la littérature française, la littérature francophone. Parmi eux, il y a eu Georges Séadé. Je sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, ce serait bien d'aller regarder un petit peu ce qu'il a écrit. Personnellement, j'aimais beaucoup sa poésie. Je l'aime toujours, d'ailleurs. Et il y a par contre un auteur libanais, une femme que vous connaissez sans doute. Hein, elle s'appelle André Chédid. Je sais pas si ça vous dit quelque chose.
Le Chédid, oui, mais elle, non.
Alors, André Chédid, c'était la mère de Louis Chédid.
Voilà. Je voyais qu'Hélène était en train de citer.
Hein, et la grand-mère, évidemment, du fils de Louis, bien sûr.
Exactement.
Alors, André Chédid, elle a écrit beaucoup de poésie, beaucoup de romans. Et elle a donné son nom à différentes bibliothèques, à un bon nombre de bibliothèques en France. Hein, on en compte quand même une petite dizaine, dont trois sur... une à Paris et trois dans la Couronne. Donc c'est quand même assez intéressant. Et évidemment, il y a un autre homme qui vit et que personnellement j'apprécie, s'appelle Sarla Stétier. Hein. Donc si vous voulez aller connaître un peu ce qu'il a écrit,
oui.
Eh ben, vous allez sur sa page, hein, Sarla, S-L-A-H, Stétier, tout attaché, .net. Hein.
D'accord, on va mettre ça sur notre page Facebook, ce sera plus simple.
Voilà. Et donc là, justement, ce qui est tout à fait intéressant, celui, c'est que si vous allez sur son site, qui rappelle quelque chose de tout à fait évident finalement aux visiteurs. Il dit on n'est jamais aussi nombreux que lorsque l'on est seul.
C'est parce qu'on a trop de bois dans sa tête.
Voilà.
Alors tout à l'heure on parlait de Khalil Gibran. Je sais qu'on dit pas comme ça, on prononce pas comme ça, mais
oui, Khalil Gibran.
Khalil Gibran, voilà, avec Martin Clavier. Il me semble que vous aussi vous avez quelqu'un qui est tout proche en termes géographiques à nous proposer.
Exactement. Lui, il est né à Bcharé, hein. Et donc il y a donc dans les lettres francophones une dame aujourd'hui incontournable et qui est native de ce même lieu. Elle s'appelle Vénus Khourigata. Et je recommande évidemment le dernier livre qu'elle a écrit, qui est superbe, qui s'appelle Les derniers jours d'Ossip Mandelstam.
D'accord.
Et voilà, franchement, je vous le conseille.
Et vous avez...
Si on a un petit peu de temps, je peux vous raconter un petit peu ce dont il s'agit.
Eh ben allez-y, en quelques minutes on peut faire ça, parce que sinon on irait sur notre...
Alors en fait, voilà, moi je me suis demandé d'abord si c'était vraiment une biographie ou un roman. Et en fait, je pense qu'on est plutôt vers une prose qui, comment dirais-je, a une forte intensité. Elle est à fleur de sens. C'est la vie d'un poète russe qui va s'opposer un petit peu à la montée du communisme. Et donc, à partir de ce moment-là, il va être relégué. Vous voyez, on appelle ça la relégation intérieure. Et donc, il va devoir... la première des punitions, c'est qu'on va l'interdire d'écrire, interdire de publier. Donc, c'est quand même quelque chose de très, très compliqué, très difficile.
Et ça, donc, c'est vrai.
Eh oui. En fait, cette interdiction d'écrire, c'est quand même ce qu'il y a de plus... C'est un supplice que je dirais subtil. Et c'est horrible. Et donc, en fait, c'est sa compagne, qui s'appelle Nadjeja, qui porte bien son nom, hein, je dirais peut-être, parce que ça veut dire espoir en russe.
D'accord.
Et elle, en fait, si vous voulez, elle va apprendre l'ensemble des poèmes par cœur. Et elle les retranscrira plus tard, une fois qu'il sera mort. Évidemment, il va être déporté en Sibérie, il va avoir une vie tout à fait... très, 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 très difficile. Comme on s'imagine.
D'accord. D'où le titre de cet ouvrage, Les derniers jours d'Ossip Mandelstam.
Voilà, c'est ça.
Et donc, vous pouvez me répéter, oui. Pascal, je vais mal prononcer, le nom de l'auteur.
Vénus Khourigata.
Voilà.
Donc ça, encore une fois, on le met sur notre page Facebook et c'est votre dernière recommandation. Le mois prochain, vous nous ferez aussi une petite sélection pour Noël?
Oui, tout à fait. Alors, je me suis rendu dans un salon tout à fait amusant ce week-end, et j'ai découvert des livres pour enfants qui nécessairement avec ce type de titre vont leur plaire.
Bon, bah parfait. Hein? Alors, vous mettez ça sous le coude pour les enfants. D'ici là, si les adultes ils ont 6 000 € à donner à la BNF, faut pas hésiter. Merci beaucoup, Pierre.
Allez, au revoir.
Bonne fin de soirée. Au revoir.
Ouais, au revoir.
Géraldine, moi j'ai une idée, on pourrait prendre une lampe pour bouche à oreille.
On pourrait prendre une lampe pour bouche à oreille pour voir ce qu'on fait, c'est ça? Parce qu'on fait n'importe quoi.
C'est gentil. À la BNF.
Voilà. Hein. Parce que t'as 1000 euros, attends, ils sont dans ma poche.
Oui, mais
on va demander à Aline en fait. Je pense qu'on va demander. Aline, si tu nous écoutes, si tu as 1000 euros, tu nous prends une lampe à la BNF, ça serait sympa. On apprécie ça. Vous êtes bien sur bouche à oreille, hein, malgré les bêtises qu'on raconte. Nous sommes en français, une émission en français hebdomadaire, tous les lundis soirs de 9h à 10h. Nous venons d'écouter. Maintenant, tu vois, tu me fais dire n'importe quoi. Oui. D'écouter Pierre avec ses sélections littéraires du mois. Si vous en avez marre d'entendre de l'anglais, vous êtes bien sur bouche à oreille. Normalement, on parle en français, hein, d'accord. Mais bon, il faut quand même qu'on dise à tout le monde ce qui se passe. Et il n'y a pas que nous sur la radio. Il n'y a pas que bouche à oreille sur Radio Verulam. Par exemple, on a tous les mercredis soirs Amanda Yoweth qui a un show qui s'appelle Environment Matters. Et je ne sais pas si vous le savez, mais il va bientôt y avoir la deuxième édition de Sustainable St. Albans Week.
D'accord.
Oui. Et comme ça a très bien marché l'année dernière, ils le refont. Et bien sûr, Amanda va avoir toutes les sneak previews pour vous. Donc, elle sera à l'antenne mercredi soir à partir de 7h.
Voilà. Très bien. Et jeudi, Radio Verulam sera le sponsor de l'allumage des lumières de Noël à Welling Garden City. Donc, si vous êtes, si vous nous écoutez depuis Welling Garden City, passez dire bonjour à nos collègues de Radio Verulam qui seront sur place à partir de 3h de l'après-midi. Et puis, il y aura bien sûr l'opportunité de rencontrer le Père Noël. Il y aura une fête foraine et plein de stands de nourriture et de poissons, voilà, pour l'allumage des lumières à partir de 18h30, voilà. Donc c'est jeudi. Voilà, c'est jeudi, ça commence à 15h, mais l'allumage se fait à 18h30. Voilà.
Beaucoup de Français à Wallen, donc peut-être qu'il y a des auditeurs. En tous les cas, une ancienne auditrice, présentatrice, qui est maintenant notre reporter en France, est avec nous, j'ai nommé Mélanie. Bonsoir Mélanie.
Bonsoir, de qualitatif.
J'en ai oublié un petit peu, mais bon.
Oh non.
Donc tu es notre reporter dédié sur les affaires culturelles en France.
Non, je t'ai plus la coupe est pleine.
Qu'as-tu dans ton bagage ce mois-ci?
Alors, les sorties, les sorties ciné, quelques sorties ciné, pas toutes bien sûr, mais quelques-unes que je vous ai sélectionnées. Et on va commencer par un documentaire qui s'appelle Swagger. Alors je sais pas si vous savez ce que ça veut dire swag.
Non.
Non.
Nous on parle pas très bien anglais, hein.
Non, mais en fait, oui, voilà, c'est un terme qui est utilisé, notamment, qui a été, d'ailleurs, il semblerait qu'il soit maintenant, pour les francophones que nous sommes, has-been, ce terme. Mais c'est pas grave.
Mais on parle pas bien français non plus, donc.
Non plus, voilà. Alors, pour vous donner exactement la définition, c'est quelque chose de classe, ça le fait, ça va, comme la chanson qui vient de passer. Ça va.
Bon, voilà. Ça on comprend, c'est bon.
Voilà, donc c'est un documentaire d'Olivier Badinier qui a passé quelque temps dans la banlieue, où il a rencontré en fait 11 enfants et adolescents avec des personnalités très surprenantes et qui grandissent au cœur des cités les plus défavorisées de France. Donc c'est une palette où on nous montre un monde à travers leur regard à eux, qui est parfois singulier et inattendu. Et ils ont, du fait de leur âge, des réflexions qui sont plutôt drôles et percutantes. Et ça déploie une mosaïque de rencontres qui mélange les genres entre la comédie musicale, la science-fiction. C'est à la fois un documentaire, mais où les acteurs ont été aussi les acteurs de leur propre rôle. Si vous voyez ce que je veux dire, oui. Je ne sais pas si je m'explique correctement. Mais en fait, ils ont eu la possibilité aussi d'improviser, vu que c'était un documentaire. Et on se rend compte que malgré les difficultés de leur vie, ils ont bien évidemment des rêves et beaucoup d'ambition. Et que ça, personne ne leur enlèvera. Donc, ça sort cette semaine, là, mercredi. Et ça a eu pas mal d'écho sur les médias français.
Il y avait eu un film documentaire qui avait été réalisé il y a quelques années, il me semble, dans une classe également.
Oui, tout à fait. Être ou avoir, voilà. Alors, on est là dans quelque chose d'un peu différent, semble-t-il. Vous verrez sur la bande-annonce, je vous ai transmis le lien, où il y a aussi un petit peu des moments très rigolos, de défilé, où on se la joue swag.
D'accord. Ouais. Très bien, ouais. À voir. Ouais. Non, moi j'ai regardé la bande-annonce et ça a l'air d'être sympa.
Ouais. Et voilà. C'est un peu différent des documentaires un peu tristounés qui vous mettent le moral à zéro. C'est ça a l'air assez frais et en tout cas sur les médias français, on a pu voir un peu plus que la bande-annonce et des interviews. Et ce sont vraiment des adolescents maintenant, parce qu'il faut savoir que le documentaire a été filmé il y a un an et demi ou deux ans.
D'accord. Et donc, aucun de ce que disent les enfants n'était écrit au préalable.
Non, du tout.
Donc c'est bien, ça sort de leur...
Ça sort d'eux, ou alors si toutefois ça a été écrit, parce qu'en fait le projet est parti au départ d'intervenants qui intervenaient dans le collège. notamment autour du théâtre, autour de la langue française. Donc, en tout cas, si toutefois certaines parties sont écrites, elles ont été écrites avec eux.
Avec eux, d'accord, parce qu'il y a, il y a des sacrées sorties, quoi, sur la bande-annonce, on les entend parler, c'est...
Oui,
il y a des trucs qui sont très très drôles quand même.
Voilà, tout à fait. Notamment la comparaison de la démarche de Barack Obama.
Absolument, et de François Hollande. Ouais, très drôle. Et quand je mets l'extrait sur notre page Facebook.
Voilà. Alors ensuite, je voulais vous parler également d'une comédie dramatique de Rachid Djadali avec Gérard Depardieu et Sadek qui s'appelle Tour de France. Et qui est en fait l'histoire d'un jeune rappeur de 20 ans qui, à la suite de petits soucis ou gros soucis, doit se mettre au vert. Et son producteur, le producteur de ce jeune rappeur, lui propose en fait de prendre sa place aux côtés de son père, à lui, pour faire le tour des ports de France. Parce que ce père est un passionné de peinture et qu'il veut faire ce tour de France... sur les traces du peintre Joseph Vernet. Donc, comédie dramatique, choc des générations, des cultures, et néanmoins une amitié qui se tisse petit à petit entre ce rappeur et ce maçon du nord de la France autour d'un périple et qui finit à Marseille. Donc, ça a été couronné notamment de... Enfin, ça a été présenté à pas mal de festivals et notamment la prestation de Gérard Depardieu et de cet acteur Sadek est particulièrement couronnée de louanges.
Ouais, il y a vraiment quelque chose entre eux. Hein. J'ai vu les deux minutes de bande-annonce et on sent que ils ont une chemistry,
une alchimie
incroyable. Ouais. Et Depardieu grandissime. Hein.
Oui, exactement. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas forcément vu dans un rôle comme celui-là. Ensuite, on va passer à une comédie. Hein?
Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu nous
proposes? Sur une grande institution française.
Pôle emploi. J'en étais sûre.
Donc, une comédie qui s'appelle Les Têtes de l'Emploi, qui est un film d'Alexandre Charlot et de Franck Magnier, avec Franck Dubosc, Elsa Silberstein et François-Xavier de Maison. Donc, les deux compères masculins, on a l'habitude de les voir dans des comédies. Celle qu'on a un peu plus rarement vue en comédie, c'est Elsa Silberstein, qui l'a, en tout cas d'après les extraits, puisque c'est un film qui sort, hein, comme je dis, les trois sortent mercredi, mais j'ai eu l'occasion donc de voir la bande-annonce, mais également des interviews radiophoniques ou télévisées, et qui est absolument incroyable, et qui a pris un plaisir incroyable à jouer la comédie, et d'après les premières images, en tout cas, on voit qu'elle s'éclate.
Nous aussi, d'ailleurs, c'est pas mal.
Comment ?
Je dis nous aussi quand on regarde la bande-annonce.
Voilà. Donc, en fait, c'est l'histoire de Stéphane, Cathy et Thierry, qui sont les meilleurs employés de l'agence pour l'emploi de leur ville. Mais leurs résultats sont tellement bons que l'agence va devoir fermer. Faute de chômeurs. Donc, tous les trois décident, ont cette folle idée, en fait, de créer du chômage.
D'accord.
Pour sauver leur poste. Donc, ça va être ces péripéties pour arriver à leur fin. Donc voilà pour eux. Ensuite, j'ai les petites sorties DVD. Il y a des rééditions, en fait, de certains, enfin, notamment d'un dessin animé qui s'appelait La Légende de Despero.
Ah, c'est drôlement bien.
Ouais, avec une petite souris qui a un destin assez extraordinaire, qui rencontre la princesse. C'est un dessin animé qui date de 2008, mais j'ai pensé aux auditeurs qui avaient peut-être des jeunes enfants et qui connaissaient pas forcément. Et c'était un petit clin d'œil, voilà, pour eux.
Un cadeau de Noël.
Voilà.
Et je te coupe, c'est pas une souris, c'est un gentilhomme.
Oui, c'est vrai,
lui,
pardon.
C'est lui qui le dit, même, voilà.
C'est vrai. Enfin, il a un peu la tête de souris, quand même.
Il a un petit peu une tête de souris avec des grandes oreilles, mais c'est un gentilhomme. Il y en a peut-être d'autres, des gentilshommes, qui ont
des grandes oreilles.
Non, mais qui ont des deux têtes, mais bon. Bref, donc voilà un cadeau de Noël.
Voilà, il y en a un petit deuxième aussi. J'ai pensé également aux parents qui souhaitent avoir les versions françaises des Disney.
Oui.
Je sais que ça arrive parfois.
Les forces à regarder les DVD en français. Non, il n'y a pas de version anglaise sur ton DVD.
Donc, si toutefois ça intéressait certains parents, parce que ça peut être utile parfois, le monde de Dory Est sorti également en DVD et c'est l'histoire de ce petit poisson à tête de linotte qui oublie tout, qui était notamment dans le monde de Nemo.
Bah oui, voilà.
Et donc voilà. Ensuite en DVD, en comédie, je vous en ai déjà parlé, donc je passe vite. Camping 3.
Oui, bah passe vite.
Voilà. Patrick Chirac, les acolytes au camping des flots bleus, le nouvel opus. Bon, voilà. Si vous le souhaitez, vous pouvez regarder. Et ensuite, il y a un DVD qui m'a intéressée, qui s'appelle La sociologue et l'ourson. Alors ça, c'est vous devez vous souvenir de toute cette période du projet de loi du mariage pour tous, qui est de septembre 2012 à mai 2013, hein, où la France s'est enflammée autour de ce projet. Pendant ces 9 mois, en fait, une sociologue, Irène Thierry, raconte à son fils les enjeux du débat. Donc, en fait, c'est son fils qui a décidé de l'interviewer à son insu et qui, en fait, a mis ses propos en scène, mais avec des pluches. Donc, sa mère devient un ourson.
La bande-annonce m'a scotchée.
Hein, voilà.
J'ai trouvé ça incroyable.
Je pense que c'est un ovni cinématographique.
Ah oui.
Et en même temps, ça m'a vraiment interpellée. Et je me suis dit, mais pourquoi pas, après tout. Et donc, on suit en fait le portrait intime, et à la fois le portrait intime de sa mère, parce qu'il a quand même ce regard de fils sur la vie de sa maman, mais également le feuilleton national qui s'est passé à ce moment-là avec le sujet bien évidemment de la famille.
Non, et puis il mélange les deux formats qu'il utilise. Il y a toute l'histoire avec les pluches et puis aussi elle qu'on voit aller à l'Assemblée nationale faire ses manifestations, mais dans sa vie privée avec son mari. Je mets la bande annonce tout de suite sur la page Facebook.
C'est assez surprenant.
C'est surprenant, mais ça marche très bien.
Je trouve un objet cinématographique intéressant. Et ensuite, je vais vous parler rapidement d'expos, de deux expos.
T'as des expos, ouais.
Si je vous dis, c'est l'histoire d'un mec.
Ah, Coluche. Je suis grande fan de Coluche.
Eh bien, en fait, l'Hôtel de Ville de Paris, jusqu'au 7 janvier, présente une rétrospective de sa vie. C'est une exposition sur la vie du comique, sa personnalité, son engagement politique, avec notamment la devise de René Char qu'il faisait sienne, et que je vous cite, « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » Et il s'avère que on dit qu'en fait, c'est ce que le public et les politiques avaient fini par faire en ce qui concerne Coluche. Malheureusement, le 19 juin 86, c'est un, comme dirait Renaud, putain de camion qui enleva prématurément celui qui reste quand même, et il faut le savoir à ce jour, la personnalité historique préférée des Français, classée 4e derrière Napoléon, Charles de Gaulle et Jeanne d'Arc.
Ah, incroyable.
Et devant Louis XIV.
Bon, enfin, en même temps, ça ne m'étonne pas.
Voilà. Ça m'a beaucoup surprise. J'ai trouvé ça assez, comme anecdote, assez surprenant.
Il nous reste 30 petites secondes. Est-ce que tu nous dis?
Ouais. Donc la deuxième expo, c'est aussi pour les enfants. C'est l'art des studios d'animation de Walt Disney.
Super.
Le mouvement par nature. Et c'est jusqu'au 5 mars de l'année prochaine. C'est au musée Art Ludique à Paris. Et à travers 420 œuvres, on voit tout ce qui concerne le talent artistique des studios depuis quasiment près d'un siècle maintenant. Voilà, et c'est fini.
Fantastique. Si vous passez à Paris avec les enfants, ça vaut le coup de ne pas manquer l'expo.
Absolument.
Voilà. Eh ben écoute, Mélanie, encore une sélection fantastique. On a des cadeaux de Noël, on a des ciné si jamais on est dans le coin, on a des expos si jamais on revient à Noël.
Voilà.
Bah écoute, merci beaucoup. Puis on se retrouve le mois prochain alors.
Avec grand plaisir.
Un grand merci. Au revoir.
Au revoir. Bonne soirée.
Merci.
Alors bah voilà, on a fait le tour. Hein. Il faut qu'on remercie rapidement quand même Martin Clavier qui est intervenu avec l'automne.
Avec l'automne.
Bien sûr, on doit remercier Pierre aussi. On a plein de références à vous mettre sur la page Facebook ou qui sont déjà mises, mais en tout cas qui sont dans le tuyau, on va dire. Et puis on remercie évidemment Mélanie qui vient toutes les mois également avec plein de choses qui se passent sur le point de vue culturel en France. Comme ça, vous n'êtes pas tout à fait has-been. Qu'est-ce qu'elle a dit?
Swag.
Swag, c'est bien, c'est non?
Has-been. Ouais, swag, c'est la classe.
Ah, swag, c'est la classe, ouais. Mais c'est déjà has-been.
Voilà,
c'est ça,
c'est déjà has-been.
Bon, bah voilà, voilà.
Alors, nous, on connaissait pas, donc je sais même pas comment.
On est déjà has-been sans l'avoir même, sans avoir même connu. Bref, voilà, bah merci à eux d'intervenir tous les mois sur notre assiette anglaise. La semaine prochaine, nous serons encore là. Et bah oui, on est là toutes les semaines, hein, donc voilà.
Exactement.
Et puis, on fêtera notre 5e anniversaire.
Oui, alors il y aura plein de surprises.
Voilà.
Branchez-vous, ouvrez vos oreilles.
Et puis si vous avez des bons souvenirs de nos 5 ans passés, eh ben n'hésitez pas à les mettre sur notre page Facebook. On vous dit au revoir et on vous dit rendez-vous la semaine prochaine.
À lundi, au revoir.